Écoutez, bonjour tout le monde. Comme on a tout dit, on va essayer de démarrer à l'heure et on va essayer de jouer ça rock'n'roll. Donc, je m'appelle Jean-Claude Dugnac, je suis écrivain. J'ai la particularité notoire d'avoir écrit un livre avec le suspect habituel qui est à ma droite, qui est l'écrivain Heyerdahl, dont un nouveau livre vient de sortir qui s'appelle Rainbow Warriors et qui arrive à un moment donné. C'était probablement pas fait exprès, ou je dirais son sujet et surtout l'angle qu'il a choisi pour le traiter se révèle un petit peu pertinent pour essayer de comprendre le monde. Et donc on est là pour le passer un petit peu sur le grill. Alors je vais poser les questions. Cela dit, vous avez le devoir de lever le doigt quand vous avez envie d'intervenir parce qu'on est entre nous, on se connaît tous et donc on va l'embêter. Alors on est là pour le torturer de la manière la plus épouvantable qui soit jusqu'à ce qu'il nous dise ce qu'il pense vraiment. Donc, Yann, tu viens de sortir Rainbow Warriors au Diable Vauvert. Tu parles de lesbiennes, gays, trans, bi, etc., etc. Tu parles de l'Afrique et tu parles tout simplement de gens qui ont décidé que certaines différences, certains traitements de la différence étaient inacceptables.
Oui, ben.
Oui,
ben sur celui-là.
Ben, écoute, raconte. C'est bon?
Ok, voilà. Effectivement, je parle exactement de ce dont
Bon, ben on a
tu
fini.
parlais, et voilà, et donc vous pouvez rentrer chez vous. Non, parce que je vis dans un monde, enfin, vous vivez tous dans le même monde que moi, j'imagine, mais j'ai la chance de côtoyer beaucoup de gens pour qui la différence n'est pas un problème. Au contraire, c'est un enrichissement. À une période où le monde a plutôt tendance à le monde, l'humanité a plutôt tendance, d'une façon générale, à estimer que plus on est différent, plus il faut aller vivre ailleurs, loin, et restons groupés tous ensemble, nous qui partageons toujours toutes les mêmes idées, les mêmes façons de penser, et surtout la même façon de coucher ensemble. Voilà. C'est un peu comme ça que je suis parti, oui. Et puis, c'est vrai que les Nations Unies m'ont beaucoup aidé. La Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui vote régulièrement des résolutions, en a passé une en novembre 2010 qui m'a légèrement titillé, quoi. Elle a tout à coup retiré les LGBT des crimes discriminatoires, de discrimination. Et je trouvais que ce n'était pas franchement la fonction d'une commission des droits de l'homme aux Nations Unies. Et voilà.
Alors, ce qui est intéressant justement dans Rainbow Warrior, c'est que tu ne te contentes pas de dire ce que tu viens de dire par rapport à la différence et par rapport à la nécessité d'eux. Tu mets en scène des gens qui vont revendiquer leurs différences et aller dans des endroits où on ne leur permet pas de l'être, je dirais, pour leur mettre une raclée. Et on aurait pu se contenter de ça. Ça aurait fait un magnifique film avec Stallone. Sauf que, à peu près à moitié bouquin, on est dans le Heyerdahl, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que les certitudes vacillent, que les interrogations sont remplacées par d'autres interrogations, et qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive en disant « T'es bien gentil avec tes solutions, mais il se trouve simplement que pour moi, ça ne marche pas. » Et comment, quand on est un écrivain, qu'on est, entre guillemets, sûr de soi, si l'on ne ferait pas ce métier, comment est-ce qu'on arrive à créer un personnage qui arrive, qui te jette une paire de baffes en disant « T'es gentil avec tes conneries, mais pense à mon point de vue à moi.
» Je pense que j'ai pris tellement de baffes dans ma vie avec mes certitudes, parce que j'ai été éduqué par mes parents essentiellement, mais surtout par mon père, qui avait il ne fonctionnait qu'à coup de certitude. Et il voulait que j'acquière des certitudes et des certitudes uniquement. Le doute ne permettait que d'aller plus loin dans la certitude. Et quand j'ai été émancipé, à l'âge de 16 ans, donc je me suis retrouvé face au monde, mais alors là, sans avec l'assistance du paternel pour me dire non, non, mais t'inquiète pas, ils disent que des conneries. Et ça marchait pas toujours, mes certitudes. Et j'ai grandi avec ça, j'ai continué à vivre de certitudes. Je crois que je continue encore d'ailleurs. C'est peut-être ce qui me fait avancer, c'est que je suis certain qu'à chaque fois que je suis certain de quelque chose, il faut que je m'arrête, que je prenne un peu de recul et que je m'offre le loisir de douter. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire endurer au lecteur. Je le mets dans une histoire, je fabrique le monde, je fabrique les personnages, je guide presque sa pensée, en tout cas, je guide l'émotion qu'il va ressentir en voyant évoluer les personnages sous ses yeux ou dans sa tête. Et puis, à un moment donné, je fais ce que la vie m'a fait, c'est un petit décalage qui devient un gros retournement ou un retournement partiel, parce que, ben, oui, c'est bien. Au début, tu as trouvé ça très très chouette. Et puis, tu as vu, j'étais bien. Hein, tout va bien, c'est nickel. Et puis, clac, je t'ai bien vu.
Ben, je t'ai bien vu, c'est pas le terme. C'est tu as oublié de penser à ça.
C'est pour ça que je dis que je t'ai bien lu. C'est un peu que la question que tu poses au départ, il y a 10 000 façons d'y répondre, mais il y en a une vers laquelle tu m'orientes un petit peu, et donc je me laisse partir dedans. Et puis, crac, la deuxième question que tu poses, tu dis, ah non, c'est pas tout à fait ça, mais oui, c'est comme ça que je fonctionne dans ce roman, comme dans beaucoup de romans, entre autres dans Chronique d'un rêve enclavé, qui est beaucoup plus ancien, qui doit dater de 97. Là aussi, tout le long du roman, s'installe un certain nombre de certitudes mises en place par l'auteur. Il est responsable de ça, mais le lecteur se laisse bercer, se laisse entraîner, et dit, bah, puis on va vers quelque chose qui est très clair, très limpide. Non, à partir de maintenant, à partir d'un certain moment dans l'histoire, il va falloir réfléchir à ce qui est en train de se mettre en place. Et là, en l'occurrence, comme on parle d'une ingérence qui, sous prétexte humanitaire, ne devient plus qu'une ingérence militaire, enfin, pas plus que, mais qui est avant tout une ingérence militaire, je vais finir par obliger le lecteur à se poser la question, mais attends, il s'agit du droit d'ingérence, du devoir d'ingérence, et dans ce cas-là, mais à quoi ça sert, pourquoi, comment, et pourquoi tout ça. Suis-je clair?
Oui, je pense que tu es clair, mais ce qui est curieux, c'est que tu as commencé à faire ça avec de la science-fiction, tu as fait ça avec des outils donc, qui permettaient de fabriquer à la fois le laboratoire et l'expérience, et là, depuis quelque temps, tu attaques le thriller où le laboratoire est déjà fourni, l'expérience, à la limite, elle est déjà en cours, et toi, tout ce que tu arrives à faire, c'est rentrer dans le labo avec tes propres produits chimiques en disant, attendez, on va le faire à ma façon. Et t'as l'air de détonner de l'explosion qui en résulte. Je veux dire, moi, je ne suis pas surpris. Mais quelque part, tu redeviens sale gosse ou c'est juste qu'à un moment donné, tu abandonnes les déguisements pour aller à l'essentiel? Je suis chiant. J'ai rentré dedans, hein, c'est un copain. Hein. Mais vraiment, c'est ça.
Il y a les deux réponses à la question. Je redeviens un sale gosse après une période de ma vie qui a été difficile, même au niveau professionnel. Et en même temps, il y a un souci d'efficacité. Allons à l'essentiel, oui. La science-fiction, c'est j'ai mis longtemps à comprendre que pour moi, ce n'était qu'une métaphore. De toute façon, ce que je cherchais à décrire, ce que je cherchais, ce sur quoi je cherchais à faire réfléchir le lecteur, c'était le monde, notre monde et l'humanité. De toute façon, je ne connais pas d'autre monde à titre personnel et très peu d'extraterrestres viennent me visiter. Quand j'étais à l'asile, mais bon... Ils étaient tout en blanc, j'avais aucun mal à les reconnaître. Et donc il y a ça. Mais il y a aussi le côté sale gosse. Je reste un auteur de science-fiction. C'est mon troisième thriller d'affilée. Et je suis persuadé d'écrire du thriller, mais je suis un auteur de science-fiction. Donc j'écris du thriller comme j'écris un roman de science-fiction. C'est-à-dire en me documentant énormément. Dans tous les domaines et puis surtout en utilisant toute cette documentation un petit peu à contre-pied pour amener une autre façon de voir ou en tout cas donner des pistes qui permettent de se sortir des sentiers battus.
Oui, d'ailleurs en parallèle tu publies La Troisième Lame chez Colonisation, chez ActuSF. Qui revient à ton univers de l'homéocratie et où là, c'est l'outil de science-fiction qui fonctionne à plein.
Alors là, c'est carrément l'outil de science-fiction qui fonctionne à plein parce qu'en plus, d'une certaine façon, c'est très proche de Rainbow Warriors puisque c'est encore une fois, Rainbow Warriors traite, je pense, essentiellement d'un point de vue géopolitique de cette colonisation qui n'en finit plus. Et La Troisième Lame et Scintillement et Pollinisation sont deux novellas sur la colonisation et ses conséquences, ses causes et ses tours et détours. Il y a un texte qui est écrit, je dirais, La Troisième Lame est un texte qui est assez sérieux quand même, presque solennel même dans la façon d'être travaillé.
Attendez, je m'arrête une seconde. Heyerdahl est donc un auteur sérieux, il vient de le dire, c'est une chose importante, c'est à noter de continuer. Non, essaie de te démerder de ça. Tiens, je vais te coller l'étiquette. Il y a le truc au dos.
Oui, en tant qu'auteur sérieux, après avoir écrit et retravaillé La Troisième Lame, j'ai écrit et retravaillé Colonisation, qui est une façon d'aborder la colonisation qui, elle, manque totalement de sérieux.
problème, c'est voilà. Ça, c'est, avec Ayurveda, quand on est quelque part, on se dit ça va, c'est confortable, je commence à m'installer. On sent qu'il y a quelqu'un derrière qui tire le tapis d'une manière très désagréable. Et on est obligé d'avancer, sinon on se casse la gueule.
Bon. Alors, j'ai eu un grand maître.
Oui, mais moi, ce qui m'a intéressé, justement, dans le cadre de Rainbow Warrior, c'est que c'était un moment, quand le roman est arrivé pour moi, parce que le roman n'est pas arrivé pour moi de la même façon qu'il est arrivé pour vous. Je l'ai lu, je dirais, à la fin de l'année dernière. Et c'était quelque chose dans lequel l'idée du mariage gay était dans l'air à ce moment-là, on n'avait pas encore commencé à mettre en place toute la partie opérationnelle. C'était quelque chose qui flottait dans les lames de la conscience. Je me suis dit, tiens, voilà une pièce au dossier. Et on a vu, vous avez vu, des épisodes de manifestations dans un sens ou dans l'autre. Et en ce qui me concerne, j'en retiens le sentiment d'une absence absolument totale de débat, parce que les gens ne parlaient pas de la même chose. Ils ont exprimé des idées d'une simplicité trompeuse, aussi bien dans un cas que dans l'autre, et il n'y a jamais eu de discussion par rapport à ce qu'était la réalité de la loi ou des choses du genre. Ça ne s'est totalement pas passé. Et vous avez des enfants qu'on a amenés à des manifestations à l'âge de 6 ans qui agitaient des petits drapeaux. Moi, j'ai vu une petite fille qui était toute contente d'agiter son drapeau, qui disait « Il faut pas mentir aux enfants, hein, maman, 6 ans. » Alors, on lui met des claques à la mère, généralement. Mais, ou à la mère, au père aussi. Mais bon, et là, on se retrouve, toi, tu arrives avec un bouquin qui est, justement, l'objet même du débat. Et qu'est-ce qui a empêché la civilisation de faire le boulot que tu as fait ? Qu'est-ce qui a empêché les gens, les Français, de faire ce travail-là ?
Je vais juste corriger un tout petit truc. En fait, c'est pas la fin de l'année dernière que tu as dû lire le bouquin, c'était fin 2011.
Fin 2011, oui, c'est ça. Oui.
Donc, le débat, en tout cas, tel qu'on a bien voulu nous présenter, ne commence que pendant les présidentielles, pendant la campagne présidentielle de François Hollande, qui a été très tardive en plus. Je crois qu'il parle pour la première fois de mariage homosexuel en mars, quand il s'aperçoit que ça serait bien qu'il ait les voix des LGBT en plus, pour être à peu près certain de glaner un ou deux points à M. Sarkozy. Et qu'est-ce qui m'a amené, moi, à faire ça ? C'est l'anticipation. Et l'anticipation, elle ne s'est pas arrêtée simplement au fait qu'il y aurait un jour un débat qui serait avorté, ou en tout cas très mal conduit par les médias et les hommes politiques, autour de la notion d'égalité vis-à-vis de la loi pour les personnes de tout genre et de toutes obédiences sexuelles, mais aussi tous les travers qui allaient naître de ça. C'est la première chose qui m'a sauté à la figure en mettant en scène mes personnages, c'est que de toute façon, rien n'est facile. En plus, j'ai fait quelque chose qui est un petit peu vicelard, c'est que je les ai mis dans une situation qui est beaucoup plus favorable à leur propre épanouissement, dans la mesure où ils sont ensemble. Ils se retrouvent, puisqu'ils se retrouvent dans des camps d'entraînement isolés du reste du monde, et ils évoluent ensemble. Il y a une certaine normalité qui s'installe à ne côtoyer que des gens, ou presque que des gens, qui soient lesbiens, gays, transgenres ou bi, et ou des hétéros qui, de toute façon, n'ont rien, ils s'en foutent. Tu fais ce que tu veux de ton cul, je crois qu'il y a un ou deux personnages qui le prononcent, mais il y en a au moins un. Et c'est extrêmement trompeur. Quand ils se retrouvent un petit peu plus tard en Afrique, confrontés à la réalité qu'ils avaient connue avant, mais peut-être de façon un petit peu plus dure, sur le fait d'être différents et de ne pas être nécessairement acceptés dans leur différence. Y a-t-il une différence, d'ailleurs, finalement ? Y a-t-il une différence entre un homosexuel et un hétérosexuel ? Non, a priori, constitutivement, c'est pas facile. Intellectuellement, c'est encore moins facile. D'un point de vue philosophique, non plus. Et en fait, j'ai pris un malin plaisir à faire de mes personnages, quelles que soient leurs obédiences sexuelles ou leur genre, des personnages comme nous, comme nous, hétéros, parce que je suis hétéro. Ils peuvent prendre un fusil et tirer dans quelqu'un, ils peuvent être totalement désagréables, ils peuvent être charmants aussi, et puis ils savent rire, ils savent pleurer, ils savent mourir, ils meurent bien d'ailleurs.
Oui. Tu veux dire en fait que tu en as fait pratiquement des êtres humains comme les autres, c'est de la science-fiction,
complètement. Et c'est ça qui fait que c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction dans le sens où c'est utopique pour je pense, aujourd'hui, pour pratiquement dans tous les pays du monde, je dis bien pratiquement parce que j'en connais deux où les relations sont différentes, il est utopique pour des LGBT de pouvoir vivre comme les autres. D'ailleurs, de ne pas subir à un moment donné un regard, un petit peu de travers ou un petit peu différent, ou de ne pas subir un comportement, ou de ne pas subir une ségrégation, à titre professionnel ou à titre amical. Et donc, en ce sens-là, c'est une utopie, donc c'est de la science-fiction. J'ai enfin compris que j'avais écrit un bouquin de science-fiction, mais il a fallu qu'on le répète. Hein.
Mais je ne sais pas que tu es tombé cependant sur le même article que moi en tant que recherche. Il y avait quelqu'un qui expliquait que la différence, par exemple, entre la ségrégation qu'on peut avoir vis-à-vis d'un gay et la ségrégation qu'on peut avoir vis-à-vis d'un noir ou d'un juif ou d'une catégorie souvent ségrégationnée, c'est que quand le noir rentre chez lui dans sa famille, tous les parents sont noirs, le frère, la sœur, les papas, la maman, les cousins sont noirs. Donc même s'il est dans un ghetto, même quand il va dans son école et les blancs lui jettent des pierres, il y a un espace de normalité qui est à la limite sa famille, son entourage, dans lequel non seulement ils sont tous comme lui, mais c'est ça être normal. Alors que quand on est gay, qu'on est dans une famille hétéro, eh ben, on a beau rentrer chez des gens qui t'aiment, ces gens ne sont pas comme toi. Et c'est la forme de ségrégation ultime, c'est-à-dire que même les gens qui t'aiment ne sont pas ce que tu es. Alors que tu nais noir dans une famille de noirs, tu nais d'une n'importe quelle couleur dans une famille de couleurs. Tu vois. C'est ce truc-là. Et toi, effectivement, tu as fait le travail de les mettre dans un camp où ils étaient, entre guillemets, comme tu dis, entre eux, même si déjà, à l'intérieur du camp, il y a des ségrégations qui se créent presque par nature, par simplement que quand on est des filles lesbiennes, on se retrouve entre copines, et quand on est des mecs, on se retrouve entre mecs, et on n'a pas nécessairement l'idée d'aller faire des trucs mixtes parce que quelque part, on a d'autres choses à faire plus attirantes avec l'autre côté. Et ça, c'est insidieux. Ça arrive presque parce que c'est normal. Moi, c'est pareil, si on était supporter de foot ou supporter de rugby, on se retrouverait au bar du foot ou au bar du rugby, et on se séparerait parce que c'est comme ça. Ici, on est des écrivains de l'imaginaire, on se retrouve dans une petite salle, et je ne vais pas bouffer avec des écrivains du grand large parce que je ne les connais pas bien, parce que je ne suis pas nécessairement sûr qu'ils soient intéressés par moi, et parce que j'ai plein de potes qui écrivent de la SF et avec qui j'ai envie de manger. Donc cette ségrégation est normale. Sauf que toi, à un moment donné, comme tu dis, tu la casses, et puis tu dis, ok, mais ça sert à quoi de la casser? Parce que ce n'est pas seulement la casser, mais se dire à quoi ça sert. Et est-ce que ton travail d'écrivain, ce n'est pas à un moment donné d'interroger chaque chose en disant, mais ça vous sert à quoi?
Je crois que je vais faire une très très longue réponse.
Oui.
Oui. oui, ça m'inspire un truc, ce qui est dans le bouquin d'ailleurs, c'est que, ben pareil, je connais pas mal d'homosexuels qui sont homophobes. Alors pas nécessairement avec des gens qui ont le même genre qu'eux, mais avec l'autre genre.
C'est-à-dire tu connais des gays qui n'aiment pas les lesbiennes, des lesbiennes qui n'aiment pas les gays, là.
Oui, et qui ont des attitudes aussi homophobes que celles des gens qui ne pensent pas l'être, en tout cas. Par exemple, je ne pense pas être homophobe, mais n'ai-je pas de temps en temps un comportement qui peut l'être? Vous savez, le truc typique dont on ne se rend pas compte. Quand un copain nous fait un geste sur l'épaule comme ça, tout va bien, quoi. C'est nickel. Si on sait qu'il est homosexuel et qu'on est hétérosexuel, on a une pensée, au minimum. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on rentre dans le cadre d'un jeu de séduction ou c'est comme tout le monde, il me pose simplement la main sur l'épaule parce qu'il m'aime bien ou que je viens de dire une grosse sottise ou n'importe quoi?
Dans le cas d'Irréal, s'il vient de dire une grosse sottise, mais bon, c'est.
Voilà, ça marche là, par exemple. J'ai bien ressenti quelque chose.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Cela dit, la question de savoir s'il y a autre chose est légitime. Elle est légitime au sens où il peut y avoir autre chose. Moi, hétérosexuel, te mettant la main sur l'épaule à toi, hétérosexuel, il ne peut pas y avoir autre chose. Alors que s'il peut y en avoir une, la question c'est de savoir quel est le sens que ça a. C'est sûr, mais ce n'est pas une interrogation qui est illégitime.
Je ne sais pas, comment on réagit quand on ne connaît pas la sexuation ou la sexualité de l'autre?
Ah ben, à la limite, à ce moment-là, on peut ne pas se poser la question.
On part du principe qu'il est hétérosexuel.
Sauf que, moi, je travaille dans une société, j'ai des collègues de la société d'à côté. Quand le collègue de l'autre société à côté vient me parler au moment du repas, de solutions, il m'aime bien, ou il veut me recruter pour sa société. La question que je me pose, c'est la deuxième question a-t-elle un sens? Parce qu'elle peut toujours en avoir une. Est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de m'acheter, de me vendre quelque chose? C'est une question normale, légitime. Ça n'empêche pas que le mec est un copain. Ça empêche que cette question est légitime. Je peux choisir de ne pas la considérer. Mais elle demeure légitime.
Ouais.
Voilà. Bon, ben, donc, c'est terminé. Non, ce qui est fascinant, moi, j'observe l'animal à Heyerdahl depuis quelques années, quand même. Puisqu'on a eu la chance de se rencontrer très tôt. On a eu la chance de se rencontrer très tôt pour une raison très simple, c'est que d'abord quand il a débarqué, croyez-moi, qui est un premier roman d'un type totalement inconnu qui débarque au fleuve Noir en 4 tomes et qui nous met minable, littéralement. Je veux dire. Nous, on décrivait des petits machins de 300 000 signes, il arrive avec 1 200 000 signes, et puis je vous emmerde. Et en plus, c'est bien, quoi, je veux dire, c'est, là, ça merde tout le monde. C'était vraiment un truc. Donc là, il y a deux solutions, soit on râle, soit on va rencontrer la bête. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'aller rencontrer la bête. Bon, et à partir de là, on s'est dit des trucs. Mais ce qui me fascine chez lui depuis un moment, c'est que le questionnement est permanent. Rien n'est jamais confortable avec Ayerman. Aucune des décisions que prennent ces personnages dans aucun de ses livres, aucune des, je dirais, des théories sous-jacentes n'est vendue comme confortable. Et même quand c'est quelque chose qui relève de l'évidence, c'est une évidence pour laquelle il faut se battre jour après jour, pied à pied, pour garder la chose possible. Et ce n'est pas un univers confortable. C'est pas quelque chose de... Mais par contre, qu'est-ce que ça bouge bien? Parce qu'il y a quand même cette partie-là. Ça serait insupportable si ça ne bougeait pas bien. Eh bien, désolé, il a écrit un bouquin dans lequel il y a du rock'n'roll, dans lequel les mecs écoutent de la musique dans la jungle parce que quelque part on se lève, on y va, et puis dans lequel on part à l'attaque avec son Walkman parce que merde, c'est quand même vachement mieux, je veux dire. Moi, ton envol de Delta Plane avec plein de musique, je veux dire, merde, je veux dire, on est dans Apocalypse Now, quelque part. Et ça, cette force-là, le côté... Sachant que ce n'est pas confortable, allons-y et profitons-en quand même pour rajouter un petit peu de basse et de batterie parce que ça manque. Moi, j'adore.
Étant de plus en plus à l'aise avec le narratif et le narratif péchu, c'est-à-dire, bah, j'aime bien péchu.
On va dire couillu, hein, parce que c'est quand même important.
Péchu et couillu aussi, si tu veux. Mon côté féminin est un peu choqué, mais c'est pas grave, ça va passer. Longtemps, ça a été difficile d'écrire. Quand je dis difficile, c'était que je ne savais pas exactement comment il fallait que je travaille mes textes. Et si je choisissais de les faire aller un petit peu sur le mélo, ou si je partais même voir dans la tragédie complète, ou si je traitais la chose de façon beaucoup plus légère, s'il fallait que je mette de la dynamique, ou s'il fallait que je prenne le temps, etc. Et avec la maturité, à force d'écrire, on se pose plus ce genre de questions. Et il y a une fluidité qui vient, qui est celle de, en tout cas celle que je me souhaitais, c'est quoi que j'écrive, qu'au moins ça soit un page-turner. C'est un gros mot, il paraît. On n'a pas le droit, quand on est un littérateur, de dire qu'on aspire à obliger le lecteur à gâcher une nuit complète à lire un bouquin. Et donc je suis arrivé à ça, petit à petit, et depuis que je me suis libéré, ben, j'y vais un petit peu plus fort dans le reste, quoi. Et je crois que je vais continuer à surprendre et à faire des... Ouais, l'inattendu. J'aspire à être inattendu.
Est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question, de rentrer dedans, de tout ça, de exprimer son admiration pleine et entière, enfin, est-ce que vous avez une question? Si on continue à raconter des bêtises, on n'a aucun problème.
Parce que pour l'admiration pleine et entière, vous n'êtes pas obligé de vous déshabiller, on ne vous voit pas, vous êtes en noir.
Non, bah écoutez, on continue alors. Parce que, bon, là on parle de Rainbow Warrior, on est arrivé là, mais avant, il y a eu quand même un certain nombre de trajectoires de livres et un certain nombre aussi d'histoires qui étaient quelquefois des trajectoires individuelles. De ce côté-là, transparent, c'est passionnant parce que c'est une trajectoire individuelle d'une certaine façon, même s'il y a un groupe qui s'agressionne. Alors que Rainbow Warrior, la différence, c'est que c'est la trajectoire d'un groupe. Dans lequel des individus s'individualisent.
Oui, c'est très exactement ce qu'on écrit, en fait. On a d'un côté une trajectoire individuelle, avec une deuxième trajectoire en filigrane, voilà. Et puis dans Rainbow Warriors, comme dans les chroniques d'un rêve enclavé, il y a. C'est multicoral, quoi.
Mais il y a eu donc tout un tas de livres, il y a eu des histoires de SF qui étaient du space opéra gigantesque, c'était. Des empires en train de s'effondrer. Et alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que dans ton premier roman, tu fais s'effondrer un empire, et un empire qui cède sous la pression d'une poignée de salgos, là où, en Afrique, tu balances quand même 10 000 salgos lourdement armés, et ça ne s'effondre pas du tout, et au contraire, les mecs, d'une certaine façon, se font botter le cul idéologiquement. Quoi. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? À quel moment as-tu cessé, je dirais, de gagner? Je suis vicieux, hein.
Oui, non, mais je crois avoir cessé de gagner.
Dès ton deuxième livre, mais bon.
C'était le deuxième ou le troisième, je ne sais plus. Non, je pense que dès Donna une Oasis, il est oui. Très très clair que je ne veux plus être dans Ça se finit bien et c'est bouclé. Quoi. Oui. Parce que Ça se finit bien, ben, la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. On ne va pas impunément faire la guerre quelque part et dire tiens, on part avec 10 000 hommes et on va revenir avec les 10 000, ils seront en pleine forme, ils n'auront pas une blessure et aucun trouble psychologique sur ce qu'ils auront vécu. La réalité, là au retour, il y aura plus, ils seront plus de 3 000 à être valides, il y en a 1500 qui seront invalides et puis il y a des gens qui vont être traumatisés à vie et peut-être faire des grosses conneries en rentrant ailleurs ou être obligés d'être suivis, d'avoir un suivi psychiatrique important. Ce qui m'est arrivé, je pense que c'est j'ai été rattrapé par la réalité. Avant j'étais réaliste, maintenant c'est plus du réalisme, c'est je me sens pas le droit de mentir. Ça fait des années que je veux écrire une utopie, ça fait très exactement 17 ans que je veux écrire une utopie, ça fait 4 ans seulement que j'ai décidé que j'avais enfin les compétences pour le faire, ça fait 2 ans que j'ai le courage de m'y atteler. Donc je ne pourrais pas m'y atteler avant l'année prochaine, mais le bouquin est déjà travaillé. Quand je dis travailler, c'est qu'en fait j'ai travaillé avec 12 autres cerveaux, des gens qui ont des compétences différentes dans les domaines de l'économie, de la sociologie, de l'histoire, de la politique, de la Cour pénale internationale, et qui m'ont amené à affiner mes idées pour rendre crédible cette utopie. Parce que c'est réellement une utopie que je veux créer. Pour une fois, je voudrais que le bouquin se termine bien et qu'on croit que c'est possible. Il nous manque, c'est quelque chose dont je me suis aperçu très récemment. On est beaucoup à être contre tout ce qui se passe ou contre beaucoup de choses qui se passent, mais on n'a aucune idée constructive de comment ça pourrait se passer autrement et comment on peut faire pour arriver à quelque chose qui nous satisfasse globalement.
Oui. Parce que se passer autrement, on y arrive. Mais se passer autrement, on est bien, ça c'est ça.
Oui, on peut s'exclure du monde, par exemple, c'est une solution. La solution qu'on choisit, tout un tas de communautés. Dans les années 70, en France, on allait vivre en Ardèche et on vivait entre soi, et puis c'était très bien. On faisait pousser des moutons et on vivait des chardons, un truc comme ça. Quoi. Et puis aujourd'hui, il faut aller quand même plus loin, il faut aller s'installer, je ne sais pas, par exemple, en Chiapas. D'autant qu'il y a une communauté qui marche très bien là-bas, c'est les Zapatistes. Mais voilà. Tiens, c'est un truc intéressant, ça, le zapatisme, qui s'est développé au Chiapas, qui est devenu un petit peu un mythe partout dans le monde de la réussite exemplaire, en tout cas la poursuite de réflexion zapatiste d'une part, olivarienne d'autre part, donc globalement socialiste. Socialiste au sens du 19e siècle, hein, je ne parle pas du socialisme moderne, qui n'a plus de socialiste que l'appellation incontrôlée. Mais se dire, tiens, je vais aller vivre dans le Chiapas, je vais aller apporter mon savoir et puis aider tout le monde, déjà, c'est une façon d'envisager qui est très colonisatrice. Et puis, quand on se retrouve sur place, on sert à quoi? On s'aperçoit que c'est cette communauté qui commence à être assez importante. Je ne sais plus en termes de millions, mais c'est 2,3 millions, je pense, indios, qui vivent comme ça, enfin, qui vivent indépendamment du reste du Mexique et du reste du monde. Et on n'a rien à leur apporter, quoi. Ils n'ont pas besoin de nous. Et puis s'inscrire, apprendre à prendre le temps. Les zapatistes adorent prendre le temps. C'est-à-dire qu'une décision, elle doit être collective et non pas collégiale. Et s'il faut un an, si la décision doit être immédiate, et s'il faut un an de discussion pour y arriver, on va prendre un an. Tant pis. Mais il faut que tout le monde soit d'accord.
Ce qui veut dire donc qu'il est très difficile d'écrire une utopie en englobant des gens qui n'ont pas besoin de toi. Comment englobe-t-on, comment écrit-on un livre pour les gens qui n'ont pas besoin de ce livre?
Alors, la première chose, c'est en créant le besoin. C'est bête, mais ma formation à moi, c'est le marketing. Donc voilà, donc j'ai appris à créer le besoin il y a très très longtemps. Je l'ai fait pour des entreprises, des gros groupes d'ailleurs. C'est probablement ce qui m'a aidé à écrire, ce qui m'a aidé à façonner mes personnages et à utiliser les interactions entre eux et à faire que tout influe sur tout et sur tout. Et donc oui, on va créer le besoin. En fait, le problème, c'est pas l'utopie. Il y a une chose dont je vais passer dans mon utopie, c'est le moment où tout bascule, ce qu'on appelle la révolution. Ça, je ne vais pas la décrire, on n'en saura jamais rien, on ne saura pas pourquoi, à un moment donné, ça a clashé. De toute façon, je crois qu'on est tous capables de deviner comment ça peut se produire. Il y aura quelques allusions, effectivement, au collectif de collectif, mais ça va être tout. Après, c'est à partir du moment où... ce qu'on fait, on passe toujours un contrat avec le lecteur, tu le sais. Tu le fais à chaque fois dans chacune de tes nouvelles et tu l'as fait dans tes romans. On passe un contrat avec le lecteur dans les premières pages en lui disant, tiens, il y a tout un... On te livre un package et voilà,
Tu prends pas, mais c'est comme ça.
Mais c'est là-dedans que ça va évoluer. Là, pour l'utopie, c'est ça. Je vais livrer un package en disant, bon, ben voilà, c'est... Voilà. On a un prérequis. Mais à partir du prérequis, maintenant, je vais te montrer, je vais te faire lire, je vais te faire réfléchir, je vais t'amener à supputer. Je vais faire comme d'habitude, ne pas te décrire physiquement les personnages, mais te laisser les imaginer. Ça, c'est un truc extrêmement amusant, tiens, par exemple. Je me suis aperçu dès mon premier roman, La Bohème et l'Ivraie, que ça servait à rien de décrire les personnages. Attention, hein, tous les auteurs ont le droit de le faire si ça les amuse. Mais moi, je ne le fais plus parce que j'avais passé un temps infini à décrire un de mes personnages, l'Anaya, à expliquer qu'elle avait les cheveux verts, qu'elle était teinte, que sa peau était teinte verte. Qu'elle avait des yeux, je ne sais plus quelle couleur j'avais mis, mais j'avais passé un temps infini à ça. Et puis, je me suis aperçu, en écoutant des gens parler, des copains entre autres, parler de mon bouquin, que bah, ils ne la voyaient pas comme ça. Alors je leur ai demandé, mais vous la voyez comment? Alors là, j'ai eu 12 réponses, 12 personnages, 12 réponses différentes. Il y en a qui la voyaient noire, il y en a qui la voyaient blanche, il y en a qui la voyaient rousse, il y en a... Et là, je me suis dit,
c'est bon. Connaissant le lecteur daltonien, c'est impressionnant.
Hein. Le lecteur daltonien, oui, en plus, c'est lui. Oui, elle est très belle. Il faut qu'on trouve qu'on se crée un néologisme pour ça. Tu sais, comme dysorthographie, ouais. Il faut qu'on parce qu'il ne va pas être facile à construire. Hein. On va peut-être partir plutôt du grec que du latin. Je ne sais plus ce que je disais, donc je m'arrête.
Ce qui est merveilleux, parce que ce genre de débat, on le fait devant vous, c'est chouette, mais on le fait aussi à la maison, en général autour d'un verre ou de plusieurs ou quelque chose, et après on va regarder le soleil se lever, et on va aller voir la pluie tomber. Mais ce qui est drôlement intéressant, c'est que chaque fois, il part dans un truc, il me dit voilà, c'est comme ça, puis moi je lève le doigt en disant ben, je suis désolé que tu oublies ça. Et là, dans ce cas particulier, je vais dire écoute, j'ai bien écrit une nouvelle récemment, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Dieu de l'intérieur. Et là, pour ce qui est du contrat offert au lecteur, suivi jusqu'à la fin, ben, fume.
Oui, mais t'es aussi vicieux que moi, je n'ai jamais oublié.
C'est cette dimension que je voudrais quand même arriver à faire sortir, puisqu'il va bientôt falloir qu'on s'arrête bientôt. Rappelez-vous, c'est le moment d'intervenir, hein, sinon on va être tous poussés dehors. C'est qu'on est des vicieux. On est des gens qui bâtissons une espèce de théorie qui s'applique à 99%, 99% des cas. Et à partir du moment où on en est clairement conscient, on va travailler dans le 0,01% qui reste, parce que c'est là que c'est excitant. Nous écrivons aux marges et aux frontières. Nous écrivons à l'extrémité de l'endroit où on a cessé depuis longtemps d'être confortable. Et si on peut encore un peu avancer jusqu'au bord de la falaise, en tenant vraiment par le dernier petit bout de doigt de pied, ben on le fait. Parce que d'une certaine façon, c'est là que l'adrénaline est à son niveau maximum, c'est là que c'est excitant. Donc, tout ce qu'on peut vous raconter, tout ce que Yann peut vous raconter en tant que théorie, en tant que mécanisme, etc., c'était très bien pour les bouquins précédents, mais c'est plus là qu'il est. On est beaucoup plus loin. Et je ne sais pas où on ira, mais en tout cas, c'est ça que j'attends. Et ton utopie, tu vas d'une certaine façon la dynamité de l'intérieur, parce que c'est la seule façon qu'elle fonctionne à la fin.
Oui, c'est exactement ce qui se produit.
J'ai pas lu une ligne, on n'a même pas parlé du sujet, mais je connais l'oiseau.
Ouais, de toute façon, sinon je m'ennuierais, je pense, dans un premier temps. Et encore une fois, je me retrouverais dans cette situation que je refuse depuis des années, c'est de mentir au lecteur. Je vais spoiler un peu un de mes romans pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est Chronique d'un rêve enclavé. C'est une utopie aussi, mais bon, elle est bâtie de façon très métaphorique, puisque c'est une pseudo-transition entre un pseudo-Moyen-Âge et Renaissance dans un monde qui ressemble à le nôtre. En fait, c'est la commune de Paris sur la colline de la Croix-Rousse lyonnaise qui se déroule à Marseille. Gros mot solo.
Côté géographie, elle pourrait être une action.
Et j'installe cette utopie, mes personnages installent cette utopie entre eux, et puis je laisse à croire jusqu'au bout au lecteur que ça va bien se finir. Non, d'une part, ça se finit très très mal, là, je suis désolé, je vous ai bousillé le bouquin, hein, la lecture, et d'autre part, le prérequis de l'utopie qui est installé dès le début, qui est la non-violence, je la fous en l'air dans les deux dernières lignes. Les lecteurs qui, pendant 450 pages, ont été persuadés que j'étais quelqu'un qui prenait la non-violence et même pour changer la société, se retrouvent confrontés en deux lignes à la fin à « Non, je vous ai raconté pourquoi ça ne marchera pas. »
C'est vicieux, hein ? Oui, mais d'une certaine façon, rappelez-vous toujours que c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous fonctionnons dans les endroits où, je dirais, où les failles commencent à apparaître. Juste avant nous, il y avait un débat, je ne sais pas si vous y avez assisté, où il y avait Thomas Day, où il y avait John Connolly, etc., etc. Et un certain nombre de gens qui sont à l'endroit, justement, où le mal se répand par les troncs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils envoient, d'une façon ou d'une autre, un héros qui ne va pas refaire refluer le mal, qui ne va surtout pas l'empêcher, parce que le mal est une composante, qui va simplement dire « Je suis là, et parce que je suis là, je témoigne, je fournis une cartographie. » Et donc, on sait où on en est. C'est-à-dire, cette faille qui est un endroit, cette espèce de cul-de-sac qui mène dans des terrains vagues que personne n'a exploré, ben, je repousse le terrain vague un peu plus loin. Je ne repousse pas le mal, mais je repousse l'endroit où on n'a pas été. Et notre travail, c'est ça. Nous repoussons l'endroit où on n'a pas été.
C'est très flagrant chez Gilles Dumay, chez John Connolly, effectivement. Ouais. John Connolly, qui est... il est impossible, par exemple, de savoir si réellement il est catholique ou pas.
Lui.
Il l'a dit tout à l'heure. Il le dit dans chaque conférence, dans chaque débat. Ça fait des années que je le connais et il n'y a rien à faire. Par contre, dans l'intimité, pour aller trouver quelque chose de catholique en lui, il faut chercher loin.
Vous parlez de spiritualité.
Oui, justement. Et c'est là que la notion de le catholicisme irlandais est un catholicisme qui est très particulier. Ça, il adore en parler, il le fait très très bien. Et il est aussi, lui, aux marges et aux frontières de tout ça. Et il prend un plaisir malin à hop, tout faire basculer de façon à aller chercher, à utiliser des mythes et des mythologies qui n'ont rien à voir avec celles qui ont été engendrées en Irlande, par exemple. C'est pour ça que son dernier roman qui se passe dans le Maine, il y a plusieurs de ces romans qui se passent dans le Maine, mais aux États-Unis, il y a quelque chose qui est beaucoup. Enfin, qui n'a rien à voir avec sa culture ni avec ce qu'il peut revendiquer. Et la façon dont il le fait, qui est extrêmement, extrêmement pernicieuse, c'est-à-dire très souvent. On part sur une histoire qui est relativement... c'est la littérature noire, et on s'aperçoit petit à petit qu'on est en plein thriller, qu'il utilise des éléments fantastiques et qu'il va s'en resservir. Il les met en scène sans qu'on s'en aperçoive, et quand il s'en resserre de façon flagrante, ça fait très très mal. Chez Gilles Dumay, il y a un vice particulier, c'est affreux de connaître tous les auteurs. Gilles, c'est quelqu'un qui est tout en tendresse. C'est difficile de s'en apercevoir quand on lit ce qu'il écrit. Parce qu'au contraire, il y a une espèce de catharsis autour de la violence, des actes durs, des actes pénibles qu'il peut mettre en scène. Il y a son recueil de nouvelles qui est paru chez RQSF l'année dernière, dont j'ai bouffé le titre.
C'est la seconde prononce, c'est Woman in Chains.
Woman in Chains, ce sont toutes des nouvelles qui traitent de la maltraitance des femmes. Eh bien, il est vraiment à la limite, à la frontière permanente, on se demande si l'auteur est en train de prendre plaisir à faire souffrir les femmes, ou s'il est en train de démonter de l'intérieur le plaisir sadique que peuvent prendre certains à faire souffrir les femmes. Voilà. Il sait danser sur le fil jusqu'au bout. À tel point, ça marche tellement bien que qu'il a été le seul auteur mâle invité dans la seule conférence consacrée pendant les dernières utopiales à « Existe-t-il une littérature féminine ou pas ?»
Et ça, si vous voulez, c'est notre travail. C'est-à-dire, ce n'est pas de dire qu'il existe une réponse, et surtout, il n'y a pas d'évidence. Et la seule façon de dire qu'il n'y a pas d'évidence, c'est d'en construire une et de dire, ben voyez, quelque part, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y en a une autre à côté, il y en a une autre, et à la limite, on ne vous a donné qu'un petit éclat du miroir global, et personne ne sait l'image que reflète le miroir. Et le boulot d'Ayerdal, c'est d'apporter autant que possible des morceaux de miroir, mais après, l'image que vous verrez dedans, d'une certaine façon, c'est vous qui allez la faire. Et une chose est sûre, quand on a fini le bouquin, ben, le miroir est un petit peu plus gros. On dispose d'un peu plus de façons de voir les choses. Alors après, ce qu'on regarde avec, ben, c'est limite votre problème.
Yep. Je voudrais juste te dire, c'est la première fois que je vois un pastis qui est aussi peu de bouche.
Bon, il est 1h05. On est censé débarrasser le plancher incessamment sous peu et peut-être même avant. Donc c'est vous qui avez l'occasion maintenant de lui planter les banderilles qui vont bien et puis nous lâcherons de concert et après on ira dépecer le corps au restaurant. Donc à vous. Oui. Avez-vous des questions à poser à l'animal? Non, n'ayez pas peur. Hein. J'ai déjà bien tenu. Enfin, je crois qu'on a quand même pas mal fait saigner. Donc il chargera, mais pour une dernière fois.
Allez, you.
Allez, lâchez-vous. Faites-vous plaisir.
Hein? Le problème, c'est que derrière toi, je ne vois plus.
Il n'y a personne qui lève un bras pour aller poser une question? Bon.
Ah ouais, mêlé à l'aise en mettant la lune. Il pouvait se cacher dans le noir, maintenant c'est foutu. Et si je posais une question, moi, non, enfin.
Vas-y, pose une question.
Une question publique, hein. Il était là. Ah non, tu l'as dit, non, moi, c'est un voyage, j'ai aucune mémoire. Bon, bah, s'il n'y a pas de question, je pense qu'effectivement, je vous remercie. Parce que vous avez très bien respiré dans l'ensemble. Hein. Non, c'est toujours gênant quand quelqu'un fait une syncope en pleine conférence, que ça nous coupe la parole, enfin, c'est délicat. Je dis, soyons sérieux, pensez bien vous hydrater avant toute conférence. De façon à ne pas mettre mal à l'aise les auteurs et qui sont sur scène.
Et je rappelle que Heyerdahl dédicace ses livres sur le stand 85 et celui de la Tavante, ou juste en face, qui est le stand du W Vert. Donc, si vous êtes à 2 mètres l'un de l'autre, donc vous avancez, s'il n'est pas à gauche, il est à droite.
Et je dédicace aussi, mais alors j'ai perdu le numéro du stand, mais je dédicace aussi sur le stand d'ActuSF. Donc, des indés. Je sais pas, j'ai encore eu le temps de faire un tour. J'ai pu saluer que les gens qui étaient devant moi et à côté de moi, mais ça va venir. Je sens que vont se créer des instants de liberté très forts, très puissants, qui vont nous permettre d'échanger autour d'un pastis.
Ben écoutez, merci donc, et probablement à bientôt sur le festival.
Au revoir.
Ben, on a dit des choses intéressantes. Hein.
Bah oui, mais c'est facile quand on pose des questions intéressantes.
Pareil, ça va pas gêner pour le film.